Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est actrice, comédienne et réalisatrice. Quand vous l'entendrez parler, nous n'aurons plus besoin de la présenter, mais elle n'est pas seulement une voix, c'est aussi une présence, une interprétation, une intention. Icône de cinéma, elle s'est consacrée au 7e art ces dernières années, avec un rôle dans deux ou trois films par an, et puis elle a choisi de retourner, de revenir sur les planches, seule malgré le trac, dit-elle, qui la saisit chaque soir. Elle interprète une femme amoureuse du XVIIe siècle, une adaptation du roman de Laurence Plasney intitulé, comme cette pièce, La blessure et la soif.
Bonjour Fanny Ardant.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Fanny Ardant, vous jouez cette pièce depuis le 16 avril dernier et jusqu'au 31 mai prochain dans une petite salle, le studio Marigny. Alors je dis petite, surtout parce qu'elle est très intime et ça joue beaucoup, j'imagine, dans vos retrouvailles aussi avec le public.
Oui, je disais toujours que quand on est seul en scène et qu'on raconte une histoire, il faut qu'il y ait une proximité, avec, comme si on était dans une seule salle et qu'on parlait à quelqu'un, qu'on se levait dans le noir et qu'on racontait une histoire. Moi, j'aime beaucoup, au théâtre, voir les visages. Ce n'est pas que la voix au théâtre, c'est aussi les expressions, les choses. Donc, je trouvais que l'acoustique, la définition de la petite salle Marigny, c'était magnifique.
C'est amusant que vous disiez ça, parce que quand je suis venu vous voir, je me suis demandé si vous nous regardiez.
Ah, niette, non, pas possible, non.
Vous n'avez pas reconnu Nicolas, du coup. C'était ça la question.
Ah, maintenant que vous me dites, non. Mais parce qu'au fond, on sent. C'est pour ça que j'ai toujours que faire du théâtre, c'est comme descendre dans la fosse aux lions. C'est comme si on sait que les lions sont là. Que, est-ce qu'ils vont s'ennuyer? Est-ce qu'ils vont penser à autre chose? Mais c'est comme quelque chose de... Oui, c'est le noir. Et en même temps, on sait que les premiers rangs, deuxième, troisième, voilà.
La fosse aux lions, c'est dangereux, la fosse aux lions, quand
oui,
même.
Très.
Quel est ce danger?
De perdre. De pas avoir être arrivé jusqu'au cœur de quelqu'un. D'avoir caché leur temps et le sien propre.
Alors moi, je ne l'ai pas perdu mon temps, si ça peut vous rassurer, Fanny Ardant, quand je suis venue vous voir dans cette pièce qui raconte donc cette France du XVIIe siècle, France frondeuse, où vous incarnez Madame de Clermont, issue d'une bonne famille, élevée au couvent, mariée très jeune, dès l'âge de 15 ans, avec un homme bien plus âgé qu'elle, trois fois son âge. Ensemble, ils vont avoir quatre garçons, c'est-à-dire la définition de tout sauf de l'amour.
Pas forcément. Parce que je pense que, finalement, Monsieur de Clermont n'est pas un homme si abject que ça. Mais c'est justement l'intrusion de la passion dans une vie qui devait être réglée. Qui est, tout était là, la belle maison, les services, tout allait bien, Madame la Marquise. Et voilà qu'est arrivé ce cavalier qui tombe de cheval dans l'allée de sa maison.
15 ans plus tard, oui. Donc, il y a ce jeune homme qui vient. Et
qui est son neveu.
Qui est son neveu, en plus.
En plus.
Si on peut dire.
Oui.
Et qui vient quoi? Qui vient tout enflammé, en fait,
oui,
chez cette femme.
C'est ça que je trouve, parce que c'est la définition pure du coup de foudre. Une seconde avant, il n'y avait rien à... C'est pas comme, vous savez, la conquête, ou vouloir absolument séduire. Là, il n'y a pas de travaux de séduction. C'est qu'ils se sont rencontrés, et qu'il y a quelque chose qui s'est enflammé. Et ils ont très peu de temps de bonheur ensemble. Et qu'aussi, déjà aussi à l'époque, c'est un adultère, donc. Et que cette femme, comme vous dites, a été élevée chez les bonnes sœurs. Et que Dieu fait partie de ses interlocuteurs. Comme si elle disputait toujours Monsieur de la Tour, ce fameux homme de la passion, contre Dieu.
Alors, je l'ai dit, c'est une adaptation d'un roman, un roman oui, massif,
oui,
si je puis dire,
oui,
de Laurence Plasney. On va écouter l'écrivaine.
Quand on évoque un personnage, je travaille beaucoup à l'oreille. Pour moi, c'est très proche de la musique. Je sens si les réactions que je prête à ce personnage sont justes ou pas. Je crois qu'à partir d'un certain moment, les personnages ont curieusement une logique propre, une vie qui s'impose, et que le travail de l'auteur est une espèce de travail de sourcier pour approcher le plus possible de cette vérité qui est la leur, lorsqu'ils sont effectivement pour bien charpenter, qu'ils ont une histoire... Alors pourquoi cette histoire? Ce qui m'avait fascinée, moi, c'était la quête de la vérité. à tout prix. Voilà. Comment peut-on aller aussi loin qu'un certain nombre d'individus l'ont fait ? Je suis aussi médiocre que tout le monde. Je suis paralysée par un certain nombre d'inhibitions contemporaines. Mais toute mon admiration va à ceux qui sont capables de dépasser ça. Et c'était ça qui m'intéressait dans le livre.
Laurence Plaznay, donc, dans La Fabrique de l'Histoire, c'était en 2010, au moment où est sorti ce roman, La Blessure et la Soif, adapté à la scène, donc, dans une mise en scène de Catherine Chaube, et c'est vous qui interprétez Fanny Ardant jusqu'au 31 mai au studio Marigny à Paris. Cette Madame de Clermont, elle parlait des personnages, Laurence Plaznay, à l'instant. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ce personnage de Madame de Clermont? Je précise que, sur scène, il n'y a pas toute l'histoire, il y a une partie de l'histoire qui est donc cette histoire d'amour entre Madame de Clermont, monsieur, et ce jeune chevalier.
Justement, ce que disait un peu la détermination, l'amour fou, qui ne se démentit pas malgré tout, l'absence, malgré les empêchements de la vie. Il y avait quelque chose très proche des héroïnes raciniennes, ou même des héroïnes grecques, comme si on a... Moi, je me suis toujours dit que la chose la plus intéressante dans la vie des hommes et des femmes, c'était leur histoire d'amour. Je n'engage que moi. Leur parcours politique, financier, affairiste, tout ça, pour moi, n'est pas intéressant. C'est en quoi l'amour a pu envahir leur vie et qu'il n'est vécu que pour ça. Puisque forcément... Les gens qui ne vivent que pour l'amour sont comme des électrons libres. C'est comme de la dynamite. Un homme ou une femme qui s'aime, ils s'en fichent de la société, ils s'en fichent des lois de la société, ils s'en fichent des contraintes. Donc, quand j'ai lu le roman de Laurence Plaznay, j'étais très frappée aussi de la présence d'un dieu presque mystique. J'ai été très intéressée aussi par cette époque de la France.
La France de Louis XIV?
Oui. Moi j'aime beaucoup les frondeurs. Et j'aime beaucoup Port-Royal. J'aime tous ceux qui résistent. Tous ceux qui ont résisté à Louis XIV, pour moi, je les admirais. Comme si Louis XIV avait transformé la société française des grands aristocrates en courtisans qui venaient baiser les pieds et tout ça, en leur enlevant leur superbe. Il était intelligent en même temps, je ne dis pas que c'était un idiot. Et en même temps, ce qu'il ne pouvait pas tolérer, et que moi, c'est pour ça qu'il y ait à Port-Royal, à quelques lieues de Versailles, des hommes et des femmes qui vivaient dans la pauvreté, dans l'abnégation, dans le partage de la culture avec des gens qui n'avaient pas les moyens d'aborder à la culture. Donc c'était comme une claque pour lui. Puis c'est pour ça qu'il a fait raser Port-Royal, qu'il a fait déterrer les morts de Port-Royal, donc ça a été loin. C'était comme un état dans l'état. Et au milieu de toute cette France qui était très en ébullition, parce qu'il y avait presque une guerre civile, qu'est-ce qu'on fait de son amour pendant tout ce temps?
Et Madame de Clermont, elle attend cet amour.
Elle attend.
Parce qu'on parle d'histoire d'amour, mais en réalité, ça ne dure que très peu de temps. Vous l'avez dit, il y a une forme d'intensité, de condensation de ce moment-là, puisque ce jeune chevalier de la tour, qui n'est pas le personnage du prince charmant, qui, voilà, c'est quelqu'un de brisé, de blessé, qui va contre son oncle, puisque effectivement il va convoiter sa femme, il est dans la crainte, dans la honte aussi, et donc il va fuir.
Il va fuir parce qu'il a une autre, c'est un homme pur. C'est un homme qui croit, justement, ça le rend fou, cet adultère. Et en même temps, il ne peut pas ne pas y céder. Et puis, toute la scène qu'on raconte, c'est terrible. C'est celui qui croyait en Dieu et celui qui n'y croyait pas. C'est ça, leur lutte. Parce qu'elle, elle croit en Dieu, mais elle a choisi cet homme contre Dieu. Tandis que lui, il s'enfonce dans la pénitence de ses actes. Et j'aime beaucoup... quand tu mets un tel niveau la vie, que tu dis pas, oh, j'ai bien le droit. Tu vois, il y a quelque chose dans ces êtres que j'aime.
Presque d'absolu.
Complètement absolu. Et même elle qui l'attend, qui va l'entendre plus de 19 ans, et quand elle va finalement le retrouver, elle va tout accepter de ses exigences. Et puis, bon, on dévoile pas la fin, Mais
surtout pas, hein, les auditeurs et auditrices détestent ça.
Non, mais c'est comme s'il y avait trois personnages. Et c'est elle qui raconte. C'est Madame de Clermont, le vicomte d'Exideuil, Henri de la Tour, et Dieu. On élimine Dieu de cette histoire, elle fonctionne pas.
J'allais y venir, puisqu'on est donc dans cette ambiance. Vous avez parlé de pénombre, de salle noire tout à l'heure. Effectivement, une fois que la lumière s'éteint, on est même face à une scène noire. Vous êtes habillée d'une somptueuse robe bleue, nuit, qui brille et qui en même temps presque vous camoufle dans ce magnifique décor. Il y a quelque chose d'une église aussi, quelque chose, puisqu'il y a ce prie-Dieu qui est là, sur lequel le personnage s'installe aussi. C'est quoi cette conversation avec Dieu? Elle lui dit quoi, cette Madame de Clermont, à Dieu? Elle lui dit « J'ai vécu ce coup de foudre, et en même temps, tu me tortures, toi, là-haut. »
Oui, parce que c'est la dernière apostrophe à Dieu, en lui disant « Voilà, vous pouvez tout dire. » Mais, par exemple, elle est... Ce décor, en fait, c'est comme si on était dans la tête de Madame de Clermont. Parce qu'elle vient et elle commence à dire c'était au mois de juin, au soleil de midi. Donc, elle raconte comment leur rencontre, comment ils se sont quittés, comment ils se sont retrouvés, comment ils sont devenus amants, comment il est parti à l'autre bout de l'Orient, etc. Donc, c'est noir comme une boîte noire, vous avez raison. Comme si on était dans la tête de quelqu'un. Et qui, au fur et à mesure, peut éclairer en fonction. Mais, je pense que la conversation, Dieu, c'est toujours une conversation dans le noir. Parce que,
tu vois. Et dans le vide, ou pas?
Ah, ça, le débat est ouvert. Parce que, évidemment, quelquefois on pourrait dire, mais peut-être que parler à Dieu, c'est parler au meilleur de soi-même. Comme si, vous avez remarqué que dès qu'on parle à Dieu, on lève la tête. Donc, on apostrophe très peu Dieu en regardant par terre. Il y a quelque chose comme, et moi, j'aime beaucoup parce que, justement, dans notre république très anticléricale, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse encore parler à Dieu. Il y a encore des personnages dont le bonheur ou le malheur dépendront de cette croyance.
Fanny Ardant, c'est pas un monologue, puisque effectivement, vous incarnez les différents personnages aussi par moment, mais c'est tout de même très impressionnant de vous voir seul sur scène nous raconter cette histoire. C'est impressionnant pour nous, le public, dans cette salle dont on a parlé, mais ça doit être aussi impressionnant pour vous.
Oui, c'est comme un saut dans le vide. Parce que moi, je l'aime beaucoup, cette femme. J'aime beaucoup tout ce qu'elle vit. J'aime beaucoup Monsieur de la Tour. Je me rappelle qu'avec Laurence Plasnet, avec Catherine Chauve, je disais, comment vous l'imaginez, Monsieur de la Tour? Et Catherine m'a dit, Jean-Louis Trintignant. Et moi, j'ai pensé à Daniel D. Lewis pour jouer. Vous voyez?
Pas mal aussi.
Mais vous avez eu raison de dire, c'est pas le beau séducteur qui arrive. Et je sais que Laurence Plasnet, elle m'avait dit qu'elle s'était beaucoup inspirée pour camper Monsieur de la Tour, Monsieur de la Rochefoucauld, celui des Maximes, qui était un séducteur, un type qui avait eu ses heures de gloire avec les femmes, bien en cours, et puis tout d'un coup il avait dit au revoir, et qu'il était parti à Port-Royal.
L'amour dont vous parlez, c'est un amour qui est absolu, sans contrainte, ou au contraire contre les contraintes, donc qui est d'autant plus fort, qui est très romantique. Est-ce que on joue pas tout le temps de la même manière cet amour-là? Quand on arrive sur scène, est-ce que c'est pas toujours la même manière de le jouer, un peu éploré, dans des grandes envolées? Enfin, comment on peut renouveler ce genre d'amour qu'on a tellement vu?
Ah, voilà, c'est ça la gageure. Et puis, je pense que de moins en moins on le voit. Comme si on avait pensé que le théâtre, que les hommes du 21e siècle ne s'intéressaient plus à l'amour.
Ou peut-être que c'est pas le même amour, peut-être qu'il a changé.
Non, 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 ça, l'avarice est toujours la même, l'amour est toujours le même, le meurtre est toujours le même. Il n'y a pas de progrès dans l'humanité. Quand on me dit il y a un progrès dans l'humanité, c'est faux. Les mêmes abjections qu'on a fait il y a 2000 ans, on les a fait il y a 70 ans. Donc moi, je n'ai jamais cru qu'il y avait un progrès. Peut-être les machines à laver, ou les computers. Mais l'amour fou, ou la froideur, ou le cynisme. Donc, moi, c'est ça. Chacun est responsable de la place qu'il a donnée à l'amour. Et c'est pour ça que moi, je mets tellement... Une des plus grandes écrivains françaises, c'était Marguerite Duras. Parce qu'elle pouvait parler de la passion. Elle pouvait parler d'une autre façon. Le verbe n'était pas le même. Mais déjà, ça aurait pu paraître un petit roman photo quand elle parlait. Tu vois, l'homme rencontre à la femme. Et que moi, je pense toujours que c'est très fédérateur, l'amour. Parce que chacun peut faire un baromètre vis-à-vis de lui.
Mais comment on peut le jouer différemment? Comment on le renouvelle? Est-ce qu'il n'y a pas toujours la même manière de raconter ces histoires-là, la même manière de les jouer?
Non, mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous diriez ça aux musiciens aussi?
Oui.
Mais non, vous êtes fous. Alors vous direz, est-ce que Mozart l'a dit d'une certaine façon, Mahler l'a dit d'une autre façon, mais on parle toujours de la même chose. Donc, les équations ne sont pas les mêmes. Ou ce qu'on veut absolument avoir n'est pas le même. C'est qu'une question, vous avez raison. Le seul point commun, c'est on brûle ou on brûle pas. C'est tout. Et qu'on peut pas parler d'une façon comme clinique, comme un vétérinaire, d'une passion.
Fanny Ardant, est-ce que...
Vous êtes d'accord avec moi ou pas?
Oui, je suis d'accord, mais je trouve que c'est toujours risqué parfois de voir. On a l'impression que c'est les mêmes histoires au bout d'un moment. Alors effectivement, l'amour n'a peut-être pas changé.
Non, parce que regardez, moi j'ai joué Médée.
Oui. Bon, ça n'a pas changé Médée. L'histoire n'a pas changé de Médée.
Oui, mais si je compare Médée à Madame de Clermont, c'est différent. Parce que vous voyez que les routes de travers sont les mêmes. Elle tue ses enfants. Tandis que Madame de Clermont, elle attend cet homme. Donc, ce qu'on a de différent chacun de nous, c'est qu'on peut voir les passions différemment. Ou devenir violente, ou d'avoir une abnégation. Mais moi, c'est pour ça que je vous dis, mais moi je suis de nature obsessionnelle. Donc c'est difficile de m'interviewer. Mais je pense toujours que...
Oh non, vous êtes plutôt... C'est pas difficile de vous interviewer, vous êtes plutôt généreuse. Hein.
Non, mais parce que moi, je pense que toujours, chez quelqu'un, tu vois, dans les small talk, tu vois, dans des soirées où on s'ennuie, le seul moment où quelqu'un ne devient pas ennuyeux, c'est quand il parle d'une histoire d'amour.
Ah bon?
Oui.
Parce qu'il ne sait pas la raconter?
C'est le seul moment où il ne devient pas.
Ah, pardon, j'ai compris l'inverse.
Ah non. C'est un d'un coup, si mon voisin de gauche... parle tout d'un coup, mais sinon il parle de la météo, de la petite politique, de mignon et tout ça, et je me dis ce type est très ennuyeux, ou cette femme. Et puis d'un seul coup, on peut lui dire êtes-vous heureux ou aimez-vous votre femme? Et là, c'est comme si vous aviez craqué une allumette et tout devient intéressant.
En fait, on devrait parler de ça alors ici.
Oui, mais en même temps, un homme politique que vous invitez, vous devriez lui demander aimez-vous votre femme? Vous ne lui avez jamais posé la question?
Non, mais je n'ai jamais reçu d'homme politique.
Ah, parce que ce n'est que la culture, oui.
Oui, c'est ça.
Ah, voilà.
Les midis de culture.
C'est bien.
Ça vous plaît. J'avais envie de parler avec vous.
Et moi, j'éprouve quelquefois...
Votre père nous avait dit que vous étiez savante. Il avait oublié votre beauté. Et vous avez sans doute beaucoup d'esprit.
D'arrêter mon cinéma.
C'était ça, ou devenir folle.
Quoi? Elle veut plus jouer? Moi, si j'étais actrice, j'aimerais bien jouer ce rôle.
Qu'est-ce que vous proposez, hein? Que j'entre dans un cirque ou que je montre mon derrière au public?
Je voulais te demander encore quelque chose. C'est de prononcer mon nom de temps en temps.
Dépêche-toi, Fanny, s'il te plaît.
Maman chérie, je ne sais plus quoi faire. Mes bras sont trop longs. Mes bras sont trop longs et je m'en étais jamais aperçue.
On ne passe pas par hasard chez Maria Callas.
C'est de prononcer mon nom de temps en temps.
Je pourrais aboyer que le public ne s'en apercevrait pas.
Mais qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce que je peux faire le rôle? Revenir de si loin.
Parfait. Bonjour. Et au revoir.
Fanny Ardant, plusieurs extraits de films, téléfilms dans lesquels vous avez joué. Vous avez reconnu Ridicule de Patrice Lecomte, La femme d'à côté de François Truffaut, Le divan de Staline de vous-même, Fanny Ardant, Calas Forever de Franco Zeffirelli, Les dames de la côte, Nina Companese et Visage de Tsai Ming-liang.
Vous avez écouté avec un grand sourire, Fanny Ardant. Est-ce que, pour raccrocher à ce qu'on disait avant, le point commun de tous ces films, peut-être de tous ces rôles, c'est aussi l'amour?
Oui, parce que déjà, vous voyez, il y a cette phrase de Marguerite Duras qui disait « Attendre l'amour, c'est déjà de l'amour ». Donc, cette suspension dans laquelle on peut être comme l'enflammement futur. J'ai joué des personnages qui n'étaient pas forcément des femmes amoureuses. Mais par exemple, moi, j'ai souvent dit que je ne pourrais jamais jouer le rôle d'une femme que je n'aimerais pas. Je peux aimer une femme que les autres n'aiment pas. Je peux aimer une terroriste. Mais je n'aime pas envie de passer 2 mois de ma vie à interpréter une femme qui me déplairait. Donc, au fond, pour que j'aime une femme, il faut qu'en effet, il y ait un potentiel amoureux, même piétiné. Un potentiel de violence, pas piétiné. J'aime aussi, par exemple, j'aime des héroïnes où elles ne parlent jamais de l'amour, comme Simone Veil, la philosophe. Mais je pense que c'est une femme qui a brûlé. Vous voyez ce que je veux dire? Que pas le côté bien installé, bien dans les affaires ou dans la réussite, qu'on n'a qu'une vie, finalement. On a une seule vie, et qu'il vaut mieux la brûler que de l'avoir construite.
Ça dit quelque chose, évidemment, de votre intention, de comment vous jouez, comment vous imaginez un personnage. Ça veut dire qu'il y a des personnages, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Au début de votre carrière, c'était peut-être plus difficile de refuser un personnage, de dire non, celui-là, il me plaît pas, je veux pas le faire, je veux pas le jouer.
Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est plutôt quand je passais des auditions, c'est les gens qui disaient non, vous avez un accent, vous avez une voix pas possible. Et niette. Donc, et puis après, justement, quand j'ai entendu les Dames de la Côte, c'est pour ça que j'aimais tellement Nina Companès, parce qu'elle ne m'avait vu jouer nulle part, et qu'elle m'a donné ce rôle. Et je me rappelle qu'un jour, sa productrice l'a appelée et lui a dit « Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, Nina ?» Et Nina avait dit « J'ai donné les noms de mes héros dans la série. » Et alors, elle a parlé de Fanny. Elle dit « Mais vous ne m'avez pas dit que vous aviez rencontré une fille bizarre sur les Champs-Élysées ?» Et Nina Companès, c'est elle qui m'a ouvert en grand...
1979, ouais. Donc, Les Dames de la Côte, c'est une mini-série française qui
connaît... Moi, je sais que j'ai toujours dit feuilleton, et on m'a dit qu'il fallait feuilleton. Plus jamais dire feuilleton,
oui,
pourquoi
ça doit être un peu...
Je sais pas si c'est interdit, hein. C'est plus dans les usages, hein.
Peut-être désuet, juste, comme mot. On dit mini-série, maintenant, peut-être. Alors, c'est un feuilleton.
Sur France Culture, je crois qu'on continue à dire feuilleton.
C'est vrai, j'avais raison, Géraldine. Donc, c'est un feuilleton, 1979. Et vous êtes repérée par Nina Companès, qui vous donne l'un de ses rôles, donc, dans les Dames de la Côte. On est à la télévision. C'est aussi cette série-là qui va vous faire rencontrer François Truffaut.
Oui. Et que voilà, tu vois, quelquefois... Moi, je pense toujours que dans la vie, vous voyez les rotatives, que c'est, on croit que c'est une grande roue. Moi, je pense que c'est les petites roues qui entraînent les grandes roues. Mmh. Que la vie, elle a plus d'imagination que nous. Et que un truc comme ça qui passait un samedi soir... Moi, j'ai adoré tourner dans cette... Non, so più, comme elle dit.
Ce feuilleton, mais voilà. disons feuilleton.
Et que, après, François Truffaut était un homme indépendant d'esprit, parce qu'avant, moi, de mon époque, il y avait ceux qui faisaient du théâtre, ceux qui faisaient de la télévision et ceux qui faisaient du cinéma. Mais lui, comme c'était un producteur libre, un indépendant, il pouvait traverser les barrières. Et c'est lui qui m'a ouvert la porte du cinéma, comme une voix royale.
Mais ceci dit, les Dames de la Côte, c'est quand même devenu une référence.
Oui.
Nina Companès, c'est
oui.
un grand nom
oui.
de la réalisation.
Elle écrivait les dialogues, elle écrivait les personnages. Et je me rappelle qu'à l'époque de cette télévision, à la demande générale des spectateurs, ils l'ont repassé un mois après. Et je me rappelle
ils ont fait un replay, le replay de l'époque.
C'est dingue. Et je me rappelle que dans la rue, j'aimais bien qu'il y avait des petites dames qui m'arrêtaient en disant « C'est une honte, comment vous traitez votre mari ?» Et je trouvais que tout d'un coup, voilà, moi, quand j'avais pensé faire du théâtre, c'était toujours pour dire les choses absolument vraies qu'il faut dire dans le noir. Et que le fait d'être arrêtée dans la rue pour dire « C'est une honte », alors ça devenait très vrai.
Fanny Ardant, faire du théâtre, c'est venu à quel moment dans votre parcours? Vous avez grandi dans une famille de tradition, comment dire, aristocratique, où les choses étaient assez, les voies étaient assez figées, fixées, les directions étaient fixées. Vous avez continué vos études en relations internationales, vous avez fait Sciences Po, vous avez voulu passer le concours des affaires étrangères, et puis d'un coup, vous vous dites non, je vais pas faire tout ça.
Non.
Alors corrigez-moi.
Oui, c'est que moi, en effet, j'étais élevée par des parents qui m'ont beaucoup aimée. Donc, quand j'ai réussi mon bac, brillamment, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Et moi, j'ai dit, je veux être actrice. Et mes parents, qui m'aimaient et qui voulaient me protéger comme une petite salade pour pas qu'elle soit dans les intempéries, ils ont dit, bon, fais tes études, on verra plus tard. Comme si, vous savez, on dit, je veux être cosmonaute ou vétérinaire. Et donc, j'ai fait ces études de Sciences Po parce que c'était les plus courtes à l'époque. Parce que n'importe quelle licence, c'était 4 ans. Alors que Sciences Po, c'était que 3 ans.
Ils vous ont débarrassé pour ensuite...
Voilà. Et en fait, c'est bizarre de réussir dans quelque chose que vous avez choisi que pour honorer vos parents. Et qu'après, on disait... Après, il y a eu les vaches maigres, quelquefois. Et moi, je me rappelle comme ma mère me disait, enfin, t'es bardée de diplômes, tu vas pas vivre comme... Et moi, je disais, ah non, c'était un deal. Vous savez, comme avec les mafieux. On remplit son contrat, j'ai fait mes études, et voilà.
Donc, contre l'avis de votre famille, vous allez vous inscrire au cours Périmonie.
Oui.
Pour faire du théâtre d'abord, pour monter sur scène.
Moi, je n'ai jamais pensé que je ferais du cinéma, ni la télévision. C'était le théâtre. C'était, j'ai souvent dit ça, que pour moi, tout ce qui est beau, il faut que ça soit partagé. C'est comme si vous voyez quelqu'un qui lit un livre à côté de vous. Vous avez déjà vu ça. Quelqu'un qui dit « écoute ». Eh bien, pour moi, le théâtre, c'est cette essence-là. Que tu te lèves parce que tu ne peux pas ne pas partager ce qui est beau.
Il y a plus de partage quand vous êtes face à cette salle, donc.
Oui, peut-être que c'est plus artisanal. Vous savez, quand moi, je partageais ma chambre avec ma sœur, et c'est vrai que je lui disais « tu dors ?» Elle me répondait « oui ». Ben non. Et je pouvais lui dire « écoute ». Parce que je lisais. Et qu'au théâtre, il y a quelque chose encore... Vous voyez, dès que vous êtes un plateau, une lumière sur vous et le reste dans le noir, vous avez fait les conditions du théâtre. Parce que tout d'un coup, ou quand on lit, par exemple, un livre à un enfant dans son lit, c'est du théâtre. Ou quand quelqu'un, justement, à un dîner, vous raconte son...
Une histoire d'amour.
C'est du théâtre.
Est-ce que vous diriez que c'est... Alors, l'amour, j'ai bien compris dans votre parcours, c'était très important, Régnier Ardent. La folie aussi, mais ça, on va y venir dans un instant. D'abord, peut-être votre caractère, parce que c'est pas si simple, une fois qu'on a fait ses cours de théâtre, de s'imposer aussi. La personne que l'on est, l'allure qu'on a aussi. Vous avez été parfois moqué, on vous a reproché d'être trop grande, par exemple.
Oui, mais curieusement... moi, j'ai toujours, très jeune, j'ai compris que la vie est une lutte. Qu'il y avait quelque chose qu'il fallait... Vous voyez, très jeune, j'avais lu l'Iliade. Donc, je pensais que la vie, il faut se battre. Ou avec son intelligence, ou avec autre chose. Enfin, quoi que... Donc, les échecs m'ont fait des douleurs, mais ne m'ont pas atteinte. Il y avait quelque chose comme, vous savez, la certitude des fous. Et moi, souvent, quand on dit, mais qu'est-ce que vous diriez comme conseil à des jeunes acteurs? Eh bien, je leur dis que s'ils ont cette passion à l'intérieur d'eux, il faut qu'ils développent la certitude des fous. Qu'il n'y a aucun parcours qui ressemble à celui d'un autre parcours. Que tout est différent. Qu'il y a ceux qui, ça arrive très vite, et puis il y a ceux qui, ça arrive très tard. Donc, ça, c'est que je trouve qu'aucune vie ne ressemble à celle de quelqu'un d'autre. Donc, c'est la détermination que vous avez à aller jusqu'au bout.
Et donc, il faut se laisser guider par sa folie?
Oui.
Comment on fait pour lâcher prise?
C'est-à-dire que vous avez des priorités. Il ne faut pas vous intéresser à l'argent. Il ne faut pas vous intéresser à la gloire. Il ne faut pas s'intéresser au pouvoir. Il ne faut s'intéresser qu'à ce qui vous anime. Non ?
Je m'intéresse aux relations. Je m'intéresse aux relations entre les gens et aux sentiments, beaucoup plus qu'aux idées.
Les idées, vous vous méfiez ?
Et je me méfie parce que je sais que je ne suis pas très intelligent. C'est-à-dire, on travaille avec ses limites. Alors, mon univers est celui de l'affectivité.
Ce n'est pas de la fausse modestie, là, alors.
Ce n'est pas de la fausse modestie. Je connais très bien mes limites. Si j'étais très fort dans les idées, je ferais peut-être la philosophie. J'ai une admiration énorme pour les philosophes, mais je ne peux pas manier les idées générales. Donc, je m'intéresse aux idées particulières. Je m'intéresse aux relations parents-enfants, hommes-femmes. Et voilà, c'est le monde de l'affectivité, disons.
Enfin, le cinéma vous permet de vous libérer, il fait chez vous office de psychanalyse.
Oui, parce que je filme souvent des choses sans savoir ce que ça veut dire, et après, un jour ou l'autre, des étudiants font une thèse, je suis amené à la lire, et je me dis, mais mon Dieu, c'est vrai, j'ai traité 3 fois cette situation-là, 2 fois celle-là, et je ne m'en étais pas rendu compte. J'arrête même, je ne lis pas ces choses-là 2 fois, parce que j'ai peur que ça m'empêche d'avancer, de travailler. Mais enfin, c'est évident qu'on se sert des scénarios pour se libérer, oui.
François Truffaut dans l'émission Radioscopie, c'était en 1975.
On a déjà parlé de votre rapport à François Truffaut, de ce qui vous a permis de faire dans votre carrière. Fanny Ardant, est-ce que vous êtes d'accord avec lui et sur son idée de voilà ce qu'il met dans la réalisation d'un film, l'intériorité, le côté psychanalyse. Est-ce que pour vous aussi, ça a été une psychanalyse, par exemple, de réaliser des films, de passer de l'autre côté de la caméra?
Moi, je pense qu'on passe... Bon, moi, quand je vous l'ai dit, je suis de nature obsessionnelle. Donc, quand on est obsessionnel, forcément, dans les histoires que vous racontez, il y a toujours le... Vous dites toujours la même chose. Avec des décors, ou des protagonistes, ou comme une sorte de... qui paraît différent, mais au fond... Et quand j'entendais François dire justement les rapports, quand il disait « je ne suis pas assez intelligent », comme s'il fallait pas être trop intelligent non plus. Parce que si on est trop intelligent, on est trop lucide. Et si on est trop lucide, on est... Tu vois, il n'y a plus de passion. Ou il n'y a plus d'affect. Donc, moi, souvent, on m'a demandé pourquoi tout d'un coup vous êtes devenu metteur en scène. Ça s'est fait comme ça. Parce que moi, souvent, quand je joue au théâtre, l'après-midi, je fais rien. Parce qu'on est comme fossilisé dans une pièce. Et puis, j'écrivais des histoires. Et puis, des histoires assez pic-pic là-haut, quand même. Et donc, c'est un jour, Paolo Branco, producteur, qui m'a dit, eh bien, je pars à l'aventure avec vous. Et donc, ça s'est fait comme ça. Ça a commencé par des histoires que j'avais racontées.
Mais ce que dit aussi François Truffaut dans cette archive, c'est qu'il comprend après ce qu'il a voulu dire ou ce qu'il a montré. Et pas en regardant ses films plusieurs fois, parce que d'autres lui ont dit. Ça vous arrive aussi, vous?
Oui.
À la fois dans la réalisation, mais aussi dans le jeu?
Oui.
De comprendre ce que vous jouez, en fait, après?
Moi, je pense toujours que quand je vous ai parlé de brûler ou de se jeter dans le vide, il y a quelque chose comme si...
Que des trucs mortels.
Certo. Mais que c'est après celui qui est plus calme, qui peut tirer des lignes de force, ou qui peut faire comme un électrocardiogramme ou un encéphalogramme. Et puis, moi par exemple, je suis très fascinée par Jules César.
Ah oui.
Parce que on me disait qu'il était très intelligent et très froid. Voilà. Et donc, je me disais, waouh, donc aussi pour conquérir le monde. Mais justement, dès que le cinéma, le théâtre, la littérature, ce n'est pas fait pour conquérir le monde, de mon point de vue. C'est que c'est tout d'un coup, c'est toujours pour... Toujours, moi, je vois ça comme une république du noir, dans laquelle tu parlerais à quelqu'un qui avait besoin de tout ça. Mais que ce n'était pas pour devenir célèbre, c'était pour la communion des êtres comme ça, fragiles.
Mais est-ce que c'est encore le cas, ce cinéma-là? L'industrie du cinéma, elle existe? Alors, rôles qu'on vous propose ou pas, c'est une question qui se pose.
Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire très attention à notre époque, dans la littérature, et dans le cinéma, et dans le théâtre. C'est qu'en aucun cas, pour moi, la culture est faite pour rendre les gens des bons citoyens. Il faut garder le souffre. Il faut garder l'ombre. Il faut... continuer à être dans la littérature ou le cinéma quelque chose qui n'est pas fait pour être un bon citoyen. Sinon, c'est la fin. Ça voudra dire que tout est fait comme le petit manuel du meilleur citoyen. Alors que quand vous avez vu des musiques, quand vous avez vu certaines choses, la morale n'est pas forcément une morale que tu dois partager. Mais du coup, l'être humain se sent comme consolé. Parce que moi, j'ai toujours pensé que l'être humain, c'était un mélange d'ombre et de lumière, de mal et de bien, et que c'était ce combat perpétuel qui rendait la vie passionnante.
En fait, c'est la dimension presque cathartique de l'art qui vous intéresse. Absolument. Vraiment, on voit le pire, on montre le
Absolument.
Meilleur et le pire.
Et que tout d'un coup, dans le pire, toi, seul sur ton siège, tu te fais une morale à toi. Et c'est pas la morale de la République ou la morale pour bien manier un peuple, etc. Que dès qu'on manie la culture, ça a un relent de fascisme.
C'est pas le problème, du coup, pour vous, l'industrialisation, l'économie du cinéma ou de la culture, c'est plus la dimension politique. Politisée, en tout cas.
Et puis, je pense toujours que... Je me souviens de cette phrase d'André Malraux, qui disait « Le cinéma est ambigu parce que c'est un art et une industrie. » Et qu'il ne faut pas que l'industrie prenne le pas sur l'art. Et que quelquefois, ces dernières années, ça a pris le pas. Et que si vous voulez absolument faire un film comme vous vendez des melons, en disant pour être sûr de rentrer, alors il y a quelque chose qui a un vice de forme. De la même façon que vous ne pouvez pas écrire en littérature que les choses pour plaire. Il ne faut pas chercher à plaire, sinon on perd son âme.
L'amour, Fanny Ardant, la folie et la prise de risque, si je résume.
Oui. Oui, moi je dis toujours on n'a qu'une vie. Et si on n'a rien risqué... On a une sorte d'électrocardiogramme plat. Alors, à quoi bon rentrer intact dans son tombeau ? Vaut mieux que le fait, vous voyez, diastole, systole, les échecs, les succès, et qu'au fond, quand on s'en éloigne, c'est un énorme vacarme. Mais on a vécu.
Une dernière question, est-ce que vous êtes amoureuse alors ? Puisque c'est ça quand même qui vous intéresse.
Ma certo.
Merci infiniment, Fanny Ardant, d'être venue dans les Midis de Culture. Je rappelle qu'on peut donc vous découvrir dans cette scène, sur la scène du studio Marigny, dans la pénombre, dans l'adaptation du roman de Laurence Plasnet, La blessure et la soif, c'est jusqu'au 31 mai prochain.
Pour finir, Fanny Ardant, nous avons choisi deux chansons italiennes que vous aimez, l'une de Mina, l'autre de Luigi Tenco. Laquelle des deux souhaitez-vous écouter ?
Ah, Luigi Tenco.
Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza per temere che tu non venissi più ho capito che ti amo Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima Parlando con qualcuno mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza.
Louis, on vous a offert de l'eau pour cette émission, Fanny Ardant, Luigi Tenco, O Capito Che Ti Amo, j'ai compris que je t'aimais, c'est ça que vous nous avez dit, vous avez traduit les paroles pendant qu'on écoutait cette musique. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture, émission préparée par Aïssa Tundeuil, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle, c'est Nicolas Berger qui réalise cette émission ce midi à la prise de son Timothée Hubert. Merci Géraldine, à demain.
À demain Nicolas.